Après-demain, mercredi, s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Attentats qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Procès hors normes, qui aura lieu dans une salle spécifiquement créée au Palais de Justice, pouvant accueillir les 1775 parties civiles, les 330 avocats et les 20 accusés, dont l'un d'eux, Salah Abdeslam, qui a été traqué pendant 4 mois par les services de police et de renseignement français et belge. Il était l'un des cerveaux de ces attentats. À cette occasion, BFM TV diffuse ce soir une série documentaire en 3 épisodes qui raconte sa traque après les attentats. Pour en parler, on reçoit Pauline Revenaz et Marc-Olivier Fogiel. Bonjour.
Bonjour.
Pauline Revenaz, vous êtes journaliste à BFM TV et à l'origine de cette série documentaire que vous signez. Et Marc-Olivier Fogiel, vous êtes le directeur général de BFM TV, faut-il le rappeler. On va aborder évidemment aussi l'ensemble de la rentrée de la chaîne.
Avec plaisir.
Marc-Olivier Fogiel, c'était important que BFM TV investigue sur ce sujet.
Bah oui, c'est évidemment le sujet d'actualité de rentrée qui va marquer toute l'année, 9 mois de procès. Et la valeur ajoutée de BFM TV, c'est justement de pouvoir sortir de l'information, accompagner finalement le flux continu d'une valeur ajoutée. Ce qu'a fait Pauline Revenaz et les équipes de Ligne Rouge illustre ça. BFM TV, ce n'est pas que l'info à l'instant T, mais c'est cette valeur ajoutée. C'était important d'amener une valeur ajoutée à ce procès.
C'est une des marques que vous avez installées à votre arrivée sur BFM TV. Sortir de la boucle d'info pour aller vers du doc.
Hervé Béraud avait installé cette cellule avant moi, et puis le succès de BFM TV a permis d'avancer et de perfectionner encore et donner encore plus de moyens à cette cellule qui, d'ailleurs, cette année, devrait faire encore plus de 52 minutes. En fait, c'est le cercle vertueux de BFM TV. Le succès de la grille permet de donner des moyens aux journalistes de travailler, puisque, comme vous le savez, l'info coûte cher. Et fabriquer du doc, comme l'a fait Pauline, Pauline est restée plusieurs mois, 5 mois, à travailler sur ce doc, ça coûte cher de faire de l'info, et c'est le succès de BFM TV qui permet ça.
Ça allait être ma question, Pauline Revenaz, comment avez-vous travaillé sur ce documentaire ?
J'ai plongé dans le dossier, des milliers et des milliers de pages, il y a 517 tomes. Et vous mettez le doigt dedans, il y a le bras qui part avec. Donc il a fallu d'abord énormément se documenter et ensuite réfléchir, se dire qu'est-ce qu'on veut raconter. Et nous, en fait, on s'est mis dans les yeux des enquêteurs juste après l'assaut du Bataclan. Paris est vide, il est 6h du matin, c'est une gigantesque scène de crime. Et on va, dans les yeux des enquêteurs, essayer de remonter le fil et croiser deux destins, celui de Salah Abdeslam qui part en cavale pendant 4 mois et celui d'Abdelhamid Abaoud qui va être neutralisé 4 jours après les attentats. Et en croisant ces deux destins de ces deux terroristes encore en vie, c'est l'histoire qu'on a voulu raconter en 3 épisodes.
Une série documentaire qui montre des images violentes, c'est un événement violent, souvent filmé par des témoins, les assauts du Rail, les assauts policiers belges, les photos de Salah Abdeslam blessé que je n'avais jamais vues. Vous souhaitiez montrer la réalité.
Il n'y a pas beaucoup d'images violentes, il y a effectivement les images de l'arrestation.
Alors je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est que habituellement sur les autres chaînes, ces images-là sont édulcorées, floutées.
Et en fait, c'est le talent de Pauline du récit, parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec vous Philippe, il en ressort quelque chose de très intense et on a l'impression d'avoir vécu pendant 70 minutes au cœur de la violence. En fait, quand vous voyez le doc de façon clinique, à part une ou deux images, et notamment cette image de l'arrestation de Salah Abdeslam, il n'y a pas d'image violente.
Mais je le confirme.
Elle arrive à vous plonger dans une atmosphère et dans un récit haletant, puisque c'est son pari pendant 70 minutes d'accompagner finalement l'enquête. Et on est pris par quelque chose qui est très fort et qui nous fait revivre évidemment ce qu'on a vécu tous autant qu'on est il y a quelques années, mais finalement avec très peu d'images sanglantes. Hein.
Il y a une séquence absolument hallucinante dans laquelle on apprend que Salah Abdeslam, pendant un contrôle de police, a répondu à un micro-trottoir avec ses complices depuis sa voiture. La journaliste leur demande ce qu'ils pensent justement de ces contrôles.
Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin.
Avec celui-là, c'est le troisième.
Troisième contrôle.
Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens.
Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi.
Un sang-froid qui fait froid dans le dos. Comment vous avez appris l'existence de ce micro-trottoir ?
En lisant beaucoup de papiers, en recroisant des informations et surtout en trouvant le PV pendant lequel Salah Abdeslam, en détention, raconte à ses co-détenus qu'il a été contrôlé. Et en croisant ces informations-là, on a retrouvé cette archive. Et aujourd'hui, on peut dire que donc, c'est la RTBF qui a fait ce micro-trottoir, puisque ce matin, il confirme cette information-là.
Salah Abdeslam était présent lors des attentats. Il ne participe pas aux fusillades. Il abandonne alors son véhicule dans le 18e arrondissement de Paris, puis jette sa ceinture explosive dans une poubelle à Rouge. On n'arrive pas à savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné. Quelle est votre intime conviction ?
Alors moi, je n'ai pas d'intime conviction, j'ai une expertise sur le gilet qui dit que le gilet était défectueux. La seule question qui vaille, c'est est-ce que Salah Abdeslam a eu envie de l'actionner ? Et ça, Il est le seul à avoir la réponse aujourd'hui. La donnera-t-il ? C'est un autre enjeu.
Hier soir, Marc Trévidic sur BFM TV au micro de Jean-Baptiste Boursier raconte ça très bien. Raconte comment finalement ces kamikazes ont une part d'inconscient et certains d'entre eux, finalement, au moment de se faire sauter, ne le font pas. Alors peut-être sans décider lui-même de abîmer son gilet qui devait exploser, mais en le branchant mal de façon inconsciente. Et c'est une des questions. Et c'est assez passionnant d'ailleurs de comprendre ça, de se mettre dans la tête des terroristes, et cette interview hier de Marc Trévidic était passionnante pour ça, comprendre ce qui conditionne ces gens, et finalement, il y a une part d'humain entre, chez eux, notamment peut-être chez Abdeslam, inhumain évidemment, mais aussi une part de quelque chose qui fait que peut-être il n'a pas envie de se faire sauter.
Évidemment, on ne va pas tout raconter ici, on perd la trace de
Salah Abdeslam. Non, regardez-le surtout, c'est le plus important. Hein.
Je l'ai vu, et je m'adresse aux auditeurs, regardez-le. On met 125 jours à l'arrêter, la police belge parvient à le localiser chez son cousin, dans la banlieue de Bruxelles. La maison est surveillée, mais là, il y a un événement qui oblige la police à avancer l'opération. Écoutez.
Malheureusement, dans un média français, c'est le Nouvel Obs, l'information paraît que Salah Abdeslam se trouvait dans la rue du Driss. Qu'il y a des empreintes. Et à ce moment-là, je suis obligé, avec la juge d'instruction, de prendre la décision d'avancer l'opération.
Pauline Revenaz, vous faites la grimace en entendant ça. Il y a le Nouvel Obs qui a une info, qui sort l'info. Et en même temps, vous êtes journaliste. Quand on a une info, il faut la sortir. C'est quoi la limite ? Je demande votre avis. Ensuite, c'est une Marc-Olivier Fogiel.
La limite, là, c'est la limite de la sécurité. Ce que raconte le procureur fédéral belge, c'est qu'ils ont dû, en fait, anticiper l'intervention qui était prévue à 6h du matin. Ils voulaient le cueillir au saut du lit. Et ils ont dû avancer dans des conditions épouvantables. Il était 16h dans un quartier.
Ça, j'ai compris. Ouais. Ici, on est une émission média. Est-ce que c'est une faute journalistique du Nouvel Obs que d'avoir sorti cette info ?
Faute, c'est peut-être exagéré, mais il y a une responsabilité journalistique évidemment à sortir cette info. Et si nous on l'avait eu à ce moment-là, on l'avait, c'est ça, parce que moi j'étais pas BFM à ce moment-là. Vous l'aviez, Pauline.
On l'avait, on l'a retenu.
Voilà. Ouais. Donc on retient ce genre d'info, ou en tout cas on se met en collaboration avec les autorités et on se coordonne. Faute, c'est difficile de jeter l'opprobre sur un confrère qui a une info et qui décide de la sortir. En tout cas, il y a une responsabilité à sortir une info et toutes les infos ne sont pas bonnes à sortir.
Et puis je rappelle, vous n'étiez pas encore aux affaires à BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. En janvier 2015, lors de l'attentat de l'hypercachère, c'est Dominique Rizet, journaliste à BFM TV, qui avait donné des infos à l'antenne que les terroristes eux-mêmes ignoraient. Est-ce que depuis, des procédures ont été mises en place à BFM TV pour éviter ce genre de...
Évidemment, mais c'est une erreur, hein, il faut le reconnaître. Évidemment,
il l'a reconnu,
évidemment. Ça s'est passé très rapidement, à 14h l'après-midi. Finalement, on en a beaucoup parlé parce que ça a été ressorti et ça a été pointé du doigt. Sur le moment, personne ne l'avait vraiment vu, c'était dans le flux continu, mais évidemment que c'est une erreur, évidemment que tout le monde en a conscience, Dominique le premier, et que il y a une très très forte prise de conscience de ce genre de choses quand on traite l'information en continu. Évidemment, traiter l'information en continu, aussi de temps en temps on fait des erreurs, celle-là en est une forte.
On parle dans ce documentaire de la traque de Salah Abdeslam, il y a aussi celle d'Abdelhamid Abaoud. On en parle juste après une courte pause. Nous sommes avec Pauline Revenaz, journaliste, Marc-Olivier Fogiel. Traque du siècle, documentaire en trois parties ce soir sur BFM TV. Nous sommes avec Pauline Revenaz qui signe ce documentaire, qui le co-signe, vous n'êtes pas toute seule.
Avec Étienne Grelet à l'image et avec Alexandre Funel au montage.
Et avec elle, son patron en quelque sorte, Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV. Je voulais parler, mais je ne retrouve plus ma feuille, de votre série documentaire qui met également en avant la traque d'Abdelhamid Abaoud, qualifié comme étant l'un des maîtres d'œuvre de ces attentats du 13 novembre. Tout le monde pensait qu'il était en Syrie, mais finalement il était à Paris. Et la personne qui l'a dénoncé, Sonia, a accompagné la cousine d'Abaoud pour le récupérer. Il était caché dans un buisson à Aubervilliers.
Et moi, curieuse comme pas deux, je lui pose des questions et c'est là qu'il me décline son identité. Et ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire. Et je lui dis, mais vous avez tué des innocents. Mais non, il me dit non, c'est la guerre. Je lui dis, mais nous, on n'est pas en guerre. Il m'a dit que quand il se levait le matin, il m'a dit, je vous vois comme des morceaux de pain ou de sucre blanc, j'ai envie de tous vous faire sauter.
Vous avez évidemment masqué la voix de Sonia. Comment va-t-elle aujourd'hui ? La question se posait de savoir si elle allait ou non témoigner au procès, Pauline Revenaz.
Elle va venir témoigner dans quelques mois, dans des conditions de sécurité maximales, vous l'imaginez. C'est une femme qu'on doit remercier, je crois, parce qu'elle a décroché son téléphone, elle a appelé le 197, il faut quand même un certain courage pour le faire, dénoncer la personne qu'elle hébergeait et dire aux enquêteurs, Abaoud, vous croyez qu'il est en Syrie, il est dans un buisson et il faut aller le chercher parce qu'il y avait une urgence, parce que d'après lui, il préparait un attentat à la Défense.
Et c'est même encore plus complexe que ça, parce qu'il y a de l'humain dans les attentats, c'est ce que vous racontez, que là encore j'ignorais. Elle collabore avec les services antiterro, RIST. Elle arrive là où la chose se passe et on ne la croit pas et on lui demande de se déshabiller pour être certaine qu'elle n'ait pas de bombe sur elle.
Mais parce
c'est
qu'on
une
croit
sorte
que
d'humiliation
c'est...
et elle accepte cette humiliation au nom de la vérité.
Elle l'accepte, c'est un... mais parce que les enquêteurs, ils pensent quoi? Ils pensent que c'est un piège, ils pensent que les terroristes, c'est la meilleure manière de mettre un maximum de force de l'ordre devant et de se faire sauter. C'est ce qu'on appelle le danger des bombes humaines. Et ça, ils le savent, les enquêteurs. Donc oui, elle a eu un énorme courage et je pense que son témoignage au procès sera très très important.
Vous avez également échangé avec la mère d'une victime, il s'appelle Valentin, il a été assassiné à l'âge de 29 ans au Bataclan.
26 ans.
26 ans, pardon. Est-ce que les proches des victimes sont prêts à revivre ce moment lors du procès? Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont ne pas y aller?
Eh bien, c'est très partagé. Il y en a qui ont envie d'y aller, il y en a qui ont envie de voir les accusés, il y en a qui n'ont pas envie de leur parler. Et puis, il y en a qui n'ont pas la force d'y aller. Je pense que c'est un moment très dense pour tout le monde. Et c'est aussi, au-delà des victimes, c'est un moment de la nation. C'est pour ça qu'on appelle ça un procès pour l'histoire. C'est que tout le monde va revivre, en fait, ces moments-là. On sait tous, on était ce soir-là. En revanche, chacun avec son degré de douleur et de chagrin. Et c'est ça qu'il faudra entendre aussi. Il y a une armée de psychologues qui vont être là, aux abords du palais de justice, pour aider chacun à pouvoir traverser cette épreuve qui dure 9 mois.
Et comme vous l'avez vu, Philippe, ces parties civiles ont des bracelets de différentes couleurs pour indiquer aux journalistes celles qui veulent ou non être interviewées, celles ou non qui veulent être filmées. Et donc, il y a toute une organisation pour préserver ces parties civiles et ces familles de victimes qui n'ont pas envie d'être confrontées aux médias pour pas mal d'entre elles.
J'allais justement vous parler de ça, Marc-Olivier Fogiel. Quel sera le dispositif que BFM TV ne va pas manquer de mettre en place tout au long de ce procès qui dure 9 mois, vous l'avez rappelé?
Le service police-justice de BFM TV, qui est un service conséquent dans la maison, va se déployer à partir de mercredi, évidemment, pour faire suivre ce procès. Évidemment, pas les 9 mois, mais chaque moment fort du procès, les journalistes vont rester en salle d'audience et puis tout au long de la journée vont faire vivre ce moment, comme le dit Pauline, historique, puisque ça fait écho dans la vie de chacun. Il y a ceux qui ont été directement touchés dans leur chair, mais il y a tout le monde finalement a vécu ce moment-là de façon très, très particulière, et donc ça va être un moment fort pour BFM TV, qui a un lien assez particulier aujourd'hui avec ses téléspectateurs, on l'a développé ce lien, et donc toutes ces actualités qui font écho à la vie de chacun, on les fait vivre d'une façon humaine sur la chaîne.
En dehors de ça, il y a la rentrée de BFM TV. Mm-hmm. Marc-Olivier Fogiel, c'est la question traditionnelle à un patron de chaîne. Quelle nouveauté pour cette rentrée?
En fait, on a perfectionné nos avant-soirées, notamment en accueillant Yves Calvi, qui est là tous les soirs à partir de 18h50, donc de 18h50 à 20h, puis Natacha Polony. Avant ça, à l'heure du déjeuner, on accueille quelqu'un qui connaît bien la maison, Pascal Latour-Dupin, qui fait une tranche d'informations un peu différente, assez conviviale, qui est assez différente de ce qu'on pouvait faire sur BFM TV. Et puis aussi, et peut-être pas surtout, mais aussi, moi je prends beaucoup de plaisir depuis la semaine dernière à retrouver Marchal et Truchot ensemble à 16h50. C'est un duo important d'une radio concurrente d'ici qui est dans le groupe
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules. Et ils avaient chacun une émission différente sur la chaîne. Et il y a une forme de jubilation de les retrouver ensemble tous les jours à 16h50. Donc en fait, pas mal de nouveautés qui finalement crante un peu davantage ce que j'essayais de faire depuis 2 ans, c'est-à-dire incarner encore de façon un peu plus forte la chaîne et avoir des tranches un peu plus différenciées.
Et les audiences?
On va pas se plaindre, on touche du bois, chaque jour est différent, mais ça, on a fait une très bonne rentrée, on a fait une rentrée solide, forte, BFM est en forme, mais voilà, c'est le boulot d'une équipe
entière. Vous êtes en tête sur la journée, vous n'êtes pas en tête tout le temps, il y a toujours CNews, pardon, je dis ITL, c'est à l'ancienne, ITL est devenu CNews devant vous avec Éric Zemmour, moyenne de 600 000 téléspectateurs contre seulement 300 000, la moitié pour Yves Calvi.
C'est pas nous, on regarde pas ce que font les autres, on regarde ce qu'on fait, très objectivement, Yves Calvi, il fallait qu'on renforce notre 19-20, il l'a renforcé de façon conséquente. Aujourd'hui, on a un 19-20
solide. Vous regardez un peu ce que font les autres. Pascal Pro, qui vous taille des croupières avec un débat, vous avez placé Natacha Polony qui fait une émission de débat. Ça ressemble beaucoup, non?
Alors, vous n'avez pas dû regarder si vous trouvez que ça ressemble. Ça ne ressemble pas du tout, même,
alors,
d'une certaine manière. Non, en fait, évidemment, globalement, on regarde ce que font les autres. Autrement, ça serait une erreur professionnelle de pas... Mais on ne construit pas notre grille de leader en fonction du challenger. Donc, en fait, nous, entre 19h et 21h, il y avait mieux à faire que ce qu'on faisait l'année dernière. On avait avancé tout au long de la grille, pas suffisamment là. On a donné une incarnation plus forte à 19h et une offre différenciée à 20h. Et ça marche, mais aujourd'hui, notre challenge, on ne challenge pas CNews. Aujourd'hui, on est très largement devant et on perfectionne les tranches qui doivent l'être, et notamment ce 19-21. Mais peut-être que demain, Éric Zemmour n'occupera plus le 19-20 de CNews.
S'il se présente à la présidentielle, justement, ça serait une bénédiction pour vous.
C'est pas notre sujet, très objectivement. Notre sujet, c'est de faire la meilleure émission possible à 19h avec Yves Calvi.
Dernière petite question. Pendant la conférence de presse de rentrée, vous avez explicitement dit que BFM TV, c'était l'effet, FAITS. Vous avez recruté Emmanuel Valls, qui n'est pas journaliste, mais un commentateur. Il n'y a pas une contradiction?
Ben alors, vous n'avez pas entendu toute la conférence de presse, puisque c'est d'abord les faits, c'est la valeur ajoutée de cette rédaction. Il y a 250 journalistes qui se déploient à l'instant T dès qu'il se passe quelque chose, mais si ce n'était que les faits, ça ne serait pas intéressant. C'est d'abord ça, et ça, on n'y a pas touché, c'est l'ADN de la chaîne, et c'est tout le reste, le décryptage, le commentaire, l'opinion, mais avec un S et pas sans S.
Merci beaucoup Marc-Olivier Fogel. Merci, je rappelle que vous êtes directeur général de BFM TV. Avec vous, avec nous, Pauline Revenaz, co-auteur de La Traque du siècle, série documentaire sur la traque des attentats du Bataclan du 13 novembre. C'est pas seulement le Bataclan, malheureusement, c'est diffusé ce soir sur BFM TV. Merci d'avoir été avec nous.